Chers frères et sœurs, donc il y a une bonne quinzaine de jours, nous avons célébré Noël, donc Dieu fait homme. Et donc pendant ces 30 années, les gens ont pu bien réaliser, Jésus a été, comme dit saint Paul, reconnu homme à son aspect. Et alors là, il y a quelque chose qui change à partir de ce moment du baptême, puisque c'est vraiment le commencement de la vie publique de Jésus, à tel point que saint Marc commence pratiquement son évangile par le baptême. Il ne parle pas de l'enfance de Jésus. Et on voit aussi que pour certains, c'est dans les premiers siècles, il y en a qui s'imaginaient, l'Esprit de Dieu descend sur Jésus au moment du baptême. Voilà, jusque-là, il n'était pas Dieu. Il devient Dieu, mais il le quitte avant la croix, parce que la croix, c'est pas digne de Dieu. Voilà. Mais pour nous, non. Donc, c'est un moment charnière, et je voudrais... Le récit de saint Marc est très sobre. Il tient en 3 versets. Et je voudrais m'arrêter sur 3 éléments. On voit les cieux se déchirer lorsque Jésus remonte de l'eau. On voit l'Esprit descendre sur lui comme une colombe, deuxième signe. Et enfin, il y a cette voix venue des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Donc d'abord, lors du baptême, le ciel se déchire. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Nous savons que... Le ciel s'est fermé au moment du péché d'Adam et là, ça se réouvre. La communion entre Dieu et l'homme, le ciel, c'est pas le ciel matériel, mais c'est le lieu de la demeure de Dieu. Voilà, cette communion entre Dieu et l'homme était rompue par le péché de l'homme. Et c'est le cri des prophètes, « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais !» Et on verra aussi, vous voyez qu'au moment de la passion de Jésus, alors il y a un lien étroit entre le baptême et la passion de Jésus, le voile du temple se déchire. Ce voile symbolisait le ciel. Et voilà, au moment de la mort de Jésus, ce voile se déchire. Mais il faut bien revenir à la séquence, c'est en remontant de l'eau. Auparavant, il a fallu que Jésus descende pour que le ciel se déchire. Et je pense que c'est vrai aussi dans notre relation avec Dieu. Si nous voulons que le ciel s'ouvre, il faut aussi que nous acceptions de descendre. Alors, je vous donne quelques manières de descendre. Une manière de descendre, c'est déjà de reconnaître son péché. De ne pas vouloir se justifier soi-même, mais voilà, de reconnaître humblement, j'ai mal fait. Et voilà, c'est idiot, mais c'est comme ça, et je suis mauvais à certains moments. Voilà, ça c'est une manière de descendre qui est importante, parce que la miséricorde de Dieu, si on ne veut pas reconnaître notre misère, elle n'a pas de prise sur nous. Une deuxième manière de descendre, c'est d'apprendre à accepter sa faiblesse, ses limites. C'est saint Paul qui nous dit, mais lui-même a fait cette expérience, il voulait que Dieu le délivre de sa faiblesse, etc. Et Dieu a dit non, ma puissance se déploie dans la faiblesse. Et je pense que le ciel se déchire si on accepte aussi notre faiblesse, si on ne veut pas fuir notre réalité quelque part. Une troisième manière, je pense, de descendre, c'est de quitter une forme de piédestal où on regarde les autres de haut, où on juge les autres. Ça, c'est aussi, je pense qu'on n'est pas très accessible au ciel tant qu'on est dans une position dominante. C'est un peu l'attitude un peu arrogante de ceux qui ont voulu construire la tour de Siloé. Non, ça marche pas. Le ciel, c'est pas nous qui l'ouvrons. il s'ouvre, mais non, il n'y a pas besoin de construire de tour de Babel avec arrogance. C'est plutôt quelque chose qu'on reçoit. Cette ouverture du ciel, c'est une grâce. C'est pas quelque chose qu'on fait à la force du poignet. Donc, il y a une attitude intérieure arrogante qui nous ferme clairement le ciel. Et il y a une attitude, au contraire, d'humilité, de, aussi dans notre rapport avec les autres, qui nous ouvre le ciel. Voilà. Alors, et me revient un verset très beau de l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit que Jésus n'avait pas honte de nous appeler ses frères. Il aurait pu avoir un peu honte quelquefois quand même. Mais non, Jésus n'a pas honte de nous appeler. Et il n'est pas sur une attitude de piédestal où, voilà, par rapport à nous, oh, il est complètement misérable, mais bon, je suis bon. Donc, non, Jésus n'a pas cette attitude, pour ainsi dire, un peu méprisante. Ou, voilà. Donc, voilà, ça c'était le premier point. Le ciel se déchire, mais pour qu'il se déchire, auparavant Jésus est descendu. Et on verra aussi, quand Jésus va ressusciter, auparavant il est mort sur la croix et mort d'une manière violente. Deuxième signe dans ce baptême, c'est l'Esprit qui descend sous la forme d'une colombe. Là, on est habitué à représenter l'Esprit Saint sous la forme d'une colombe. On l'a sur le tableau de cette chapelle. Et l'Esprit Saint vient oindre, hein, l'onction, oindre Jésus, c'est-à-dire le consacrer, lui donner les pouvoirs nécessaires pour sa mission. Hein. C'est Saint Pierre qui nous dit, Jésus de Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit Saint et rempli de sa force. Là où il passait, il faisait le bien, il guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec lui. Mais il ne faudrait pas s'imaginer que cet esprit qui descend sur Jésus au moment du baptême, c'est comme la potion magique qu'Astérix prend pour aller vaincre les adversaires. C'est quand même pas exactement la même chose. Parce que dans la Bible, la colombe, on voit la colombe qui plane sur les eaux au moment de la création. On voit aussi la colombe qui va chercher le rameau là, au temps du déluge avec Noé. La colombe aussi, vous vous rappelez, on voit les Saint Joseph qui apporte des colombes. Hein, entre parenthèses, c'est une année dédiée à Saint Joseph, donc il faudra qu'on parle un petit peu plus de lui cette année. Mais voilà, en tout cas, Saint Joseph apporte deux petites colombes pour la présentation parce que c'était le seul parmi les oiseaux. C'est la colombe qu'on pouvait offrir en sacrifice. Alors, la colombe, donc, c'est pour redire la colombe qui symbolise l'Esprit Saint. C'est, il ne faut pas s'imaginer une sorte de potion magique qui renverse les ennemis de manière brutale. Il y a dans la colombe, il y a cette connotation de douceur, d'amour, de tendresse. Et c'est de cette manière-là que Jésus va porter la bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, annoncer aux prisonniers la délivrance. L'Esprit Saint n'est pas pour déclencher une force brutale, mais pour répandre la grâce de Dieu. Et alors pour nous, vous savez que la première fois que les disciples de Jésus ont été qualifiés de chrétiens, alors c'est les païens qui les ont appelés en les appelant les partisans du Christ, donc les chrétiens. Mais en fait, chrétien, pour nous, ça signifie pas tellement partisan du Christ, mais plutôt participant de l'onction du Christ. C'est Saint Cyrille de Jérusalem qui nous parle de ça. Voilà, nous sommes chrétiens parce que nous participons de cette onction du Christ. Nous avons reçu cet esprit aussi. Et nous sommes appelés à laisser cette onction du Christ, à laisser l'Esprit Saint nous pénétrer. Et ça suppose de faire des efforts aussi pour pas nous laisser empêtrer par notre volonté propre, par notre dureté, mais justement d'avoir cette ouverture du cœur, cette docilité que symbolise aussi cette colombe. Voilà, donc, premier signe, donc les cieux qui se déchirent, mais Jésus est descendu. Après cette colombe, ce qui vient lui donner, par laquelle Jésus est loin pour sa mission, mais qui suppose justement une douceur. Et puis, troisième signe, c'est la voix qui vient du ciel. Donc, elle dit, « Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Tu es mon fils, vous le retrouvez dans le psaume 2, hein, c'est une intronisation. Hein. Le baptême, encore une fois, c'est vraiment Jésus qui commence sa mission publique, hein, qui est qualifié pour sa mission publique, hein, c'est comme pour le Messie. Mais le qualificatif, bien-aimé, ça vient peut-être c'est peut-être une allusion à Isaac, qui est sacrifié. Et du coup, on voit que ce fils bien-aimé, il est bien-aimé, mais ça n'exclut pas la douleur, la souffrance. C'est bien de nous en souvenir, parce que quelquefois, quand on est confronté à la souffrance, on en vient à douter de l'amour. Mais il n'y a pas d'exclusion entre la souffrance et l'amour. Déjà, dans ce baptême, il y a une annonce de la mort de Jésus. Vous avez remarqué peut-être juste au passage, dans la deuxième lecture, Saint Jean, on se demande pourquoi il insiste. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang. Non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Alors pourquoi est-ce que Saint Jean insiste autant? C'est précisément parce que contre des hérésies qui pensaient que voilà, le baptême c'était bon, mais la mort de Jésus, la mort sanglante de Jésus, non, ça c'est pas digne de lui, voilà. Non, c'est par l'eau et le sang. Donc il insiste lourdement ce baptême, c'est comme la figure de quelque chose qui s'accomplira d'une manière plus tragique au terme de la vie de Jésus, où il ne descendra pas seulement dans l'eau, mais il sera mis à mort. D'ailleurs, sur les icônes, vous remarquerez que certaines icônes orientales, le Jourdain est représenté comme un tombeau. Hein, Jésus descendait dans le tombeau, mais pour manifester ce lien entre le baptême et la mort et la résurrection de Jésus. Et quand Jésus, justement, se relève du tombeau, c'est cette intronisation, on pourrait dire, par sa résurrection. Et c'est là qu'il nous ouvre le ciel. Donc, c'est troisième chose, cette voix venue du ciel. Tu es mon fils bien-aimé. Nous sommes appelés à l'entendre aussi pour nous. Puisqu'elle est ce qui est vrai de Jésus est vrai pour nous aussi, puisque nous sommes ses frères. Et là, ce qui est ajouté dans Saint Marc, je trouve très beau de peut-être le laisser résonner aussi chacun pour nous. Tu es mon fils bien-aimé, ça, quelquefois ça nous paraît presque banal, mais ce qui est ajouté vient nous conforter. En toi, je trouve ma joie. En toi, je trouve ma joie. Faire la joie de quelqu'un, c'est pas rien. On sait que notre vie est précieuse à ce moment-là. En toi, je trouve ma joie. Alors, en cette fête du baptême du Seigneur, je vous invite à vous, à travers ces trois signes, mais bon, il y a beaucoup d'autres choses, je ne suis pas exhaustif, bien entendu, mais voilà, de nous approprier la grâce d'une fête, nous sommes toujours appelés à nous approprier, alors, dans cette manière de descendre de notre piédestal, dans cette manière de cette ouverture pour être accessible à l'Esprit Saint, et aussi dans cette ouverture de notre oreille aux paroles d'amour de Dieu pour nous. Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Et demandons ainsi, par Marie, cette grâce d'être renouvelée dans notre baptême, nous aussi. Amen.